Le débat africain. Alain Foucault.
Lorsque la presse internationale parle d'elle, c'est presque toujours pour évoquer l'excision, les mutilations sexuelles dont elle serait majoritairement victime, la polygamie, l'analphabétisme ou encore pour évoquer leur forte propension à la procréation ou leur souffrance dans leur ménage dans lequel elles ploient sous le poids des tâches. Et quand on les présente sous un jour positif, c'est pour montrer leur petit commerce. Si ces phénomènes, ces travers existent bel et bien, sont réels dans leur vie, si la condition féminine au Burkina Faso n'est pas des plus enviables, elles sont un certain nombre à dénoncer ces clichés, ces images un peu réductrices qui n'offrent finalement pas beaucoup d'espoir, de rêve, de perspective aux jeunes filles. Elles constituent même souvent des freins dans leur lutte pour l'émancipation. Pour elles, la femme burkinabé ne saurait être réduite à cela. C'est pourquoi dans le tour d'Afrique des femmes leaders entrepris dans le cadre du débat africain, nous donnons ce dimanche à Ouagadougou la parole à des femmes burkinabées pour que, chose rare, elles parlent d'elles, elles-mêmes. Qu'elles parlent de leur réalité, de leurs conditions, de leur lutte, sans condescendance ni complaisance. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, avec sur ce plateau plusieurs femmes leaders. D'abord, Madame Henriette Kabore, la PDG de BTM. Bâtiment, travaux publics, maintenance. Une entreprise spécialisée dans le BTP et la maintenance qui a construit quelques grands édifices dans la ville de Ouagadougou et de l'intérieur du pays. Henriette Kabore était jusqu'à une date récente la présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au Burkina Faso. Bonjour Henriette Kabore.
Bonjour.
Merci d'être là. Notre second invité est le professeur Lucie Nébier, maître de conférences agrégé en cardiologie, cofondatrice et médecin associée à la Polyclinique internationale de Ouagadougou. Je dois préciser qu'elle est la première cardiologue du Burkina Faso. Bonjour, professeur Lucie Nébier.
Bonjour.
Merci d'être là. Notre troisième invitée est Madame Patricia Badolo, la directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en charge d'appui et support. Elle était avant ça la directrice générale de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour Madame Patrice Badolo.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Quatrième invitée de ce plateau, Aminata Sinka, la présidente des Jeunes Femmes Leaders, un club dont la vocation est le développement de l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Aminata Sinka.
Bonjour Alain.
Alors je sais que beaucoup de femmes africaines qui m'ont interpellé ont dit « Arrêtez de parler de nous comme si on n'était que malheureuses, qu'il y a des femmes parmi nous qui sont heureuses, qui ont réussi dans leur carrière professionnelle. » Avez-vous le sentiment, et là je m'adresse d'abord à Madame Badolo, avez-vous le sentiment que quand on parle des femmes africaines, on parle mal à l'international, qu'on a la mauvaise image?
Quand on parle des femmes à l'international, les femmes du Burkina aussi en font partie. Parce que nous avons des femmes leaders au niveau du Burkina Faso, et elles sont dans presque tous les domaines. Et donc, pour cela, nous pouvons dire que les femmes au niveau du Burkina sont dans plusieurs domaines.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est très cliché lorsqu'on parle des femmes?
Oui, quelquefois quand même, on a l'impression qu'on pense que les femmes ne sont pas capables, et pourtant elles ont l'intelligence, elles ont les capacités, elles ont la volonté, elles ont juste besoin qu'on puisse leur donner cette opportunité de pouvoir révéler leur potentiel.
Alors, généralement, on dit c'est le poids des traditions, on ne voit que la reproduction. Là, je me tourne vers le professeur Nébier. Est-ce qu'aujourd'hui, le poids que l'on décrit pèse vraiment sur les femmes burkinabées? Est-ce qu'elles sont un peu plus libérées? Est-ce qu'elles sont un peu plus entreprenantes aujourd'hui? Ou est-ce que la tradition continue de les écraser tel qu'on le décrit?
Moi, je pense que la tradition continue quand même à les tirer vers le bas. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de clichés, j'allais dire, ethniques et de croyances religieuses qui font que les femmes n'osent pas entreprendre et n'ont même pas confiance à elles, c'est-à-dire elles sont moins que les hommes, elles doivent rester à leur place et puis elles doivent élever les enfants, oui.
Mais pourtant, on voit de plus en plus des patronnes ici. Là, Henriette Kabore, ça fait un moment que je vous connais. Je vous ai reçu il y a une dizaine d'années déjà dans un magazine qui était Afrique Plus. Vous étiez déjà dans un domaine qui est réservé aux hommes et on se dit, ça existe. Est-ce que c'est si difficile que cela dans votre secteur d'activité d'exister, le BTP?
Je dis oui, je dis non. Vous savez, la femme est marginalisée depuis sa naissance. Quand une femme accouche une femme, déjà c'est un tollé. Les gens préfèrent les hommes, ils n'ont, en fait, je veux pas dire qu'ils n'ont rien compris, mais je pense que c'est un tort de croire que la femme ne peut pas agir, la femme ne peut pas avancer et la femme ne peut pas gouverner.
Mais quand vous dites on, c'est qui en particulier?
Ce sont les hommes. L'ensemble des hommes.
L'ensemble des hommes.
Ah oui, carrément. Je le dis tout, oui, bien sûr que ce sont les hommes. Moi, je suis dans le BTP depuis 78. Je suis arrivé au Burkina Faso en 96. Mais je ne vous dirai pas ce que j'ai vu. J'ai vu des vertes de nos murs, Alain. Les hommes ont un cercle fermé par toutes sortes de femmes.
Oui, mais comment vous avez fait alors?
Mais j'ai frayé mon chemin. Je me suis battu comme un homme pour leur montrer que la femme peut mieux faire qu'un homme. Et c'est ce que j'ai fait.
Et ils vous acceptent aujourd'hui?
Ils n'ont pas le choix. En voyant même, on voit, ils n'ont pas le choix. Et les références sont là. Je me suis battu, j'ai travaillé. Aujourd'hui, BTM, aujourd'hui, en Afrique, est connu. Aujourd'hui, j'engage même ces hommes qui m'ont combattu. Et je suis fier d'être une femme. J'ai 4 filles, moi, avec un garçon.
4 filles et un garçon. Mais, ça se passe comment à la maison?
Ça se passe très bien. Je les éduque bien. En fait, la femme, c'est l'éducation. Dès le bas âge, dès la naissance, il faut éduquer la femme. Ce sont nos mères qui disent, non, la femme, le garçon est mieux que la femme. Non.
Mais justement, j'allais dire ça, que là, vous avez dit tout à l'heure, non, la faute aux hommes. Mais est-ce que le frein ne vient pas souvent des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire à la maison? Est-ce que c'est pas les mamans qui, d'entrée de jeu, brident les filles? Là, je m'adresse à Aminata Sinka.
Aujourd'hui, je suis très soulagée, monsieur Alain Foucault. Je ne pouvais pas savoir quel sentiment j'ai. Au moins, aujourd'hui, je sais que je suis normale. Oui.
Ah bon? Vous avez douté du fait que vous soyez normale?
Oui, j'ai douté. Parce que à voir ce qui se passe et que j'ai des difficultés pour accepter, j'ai des difficultés pour admettre. C'est comme si, voilà, je ne suis pas de ce planète-là, certainement. Comme certains me le disent souvent, parce que souvent on trouve que je suis très jeune pour certains sujets que j'aborde et pour la façon de, souvent de voir les choses. J'avoue que c'est notre éducation. Pour ma part, c'est l'éducation. Je suis la plus...
Mais jeune. De la part de qui? De votre maman, de votre
de
papa?
De la maman, surtout. Bon, je ne sais pas si je vais le dire, parce que bon, moi, je n'ai pas beaucoup. J'ai perdu mon papa assez tôt, donc pour ma part, j'ai beaucoup passé plus de temps avec ma maman qu'avec mon papa. Mais mon papa, lui, par exemple, il n'avait aucun problème avec de sorte qu'une femme puisse... Lui-même, souvent, quand je venais avec mon cahier de l'école, si je n'avais pas bien travaillé, je me rappelle qu'un jour, j'étais... Bon, premier trimestre, j'étais première de la classe. Et deuxième trimestre, j'étais jusqu'au 10e. Quand j'ai amené mon cahier, il a pris mon cahier jeté. Que lui, il ne signe pas. D'aller chercher quelqu'un d'autre qui va le signer. Donc, je suppose qu'en réalité, lui-même, il était beaucoup... en tout cas, pour mon éducation...
Lui, il voulait que vous alliez loin.
Oui.
Voilà. C'est votre maman, alors.
Bon, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas. La maman aussi, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas. Mais en fait, l'éducation qui nous est, qui était livrée ne nous donnait pas vraiment le libre chemin, en fait, de partir.
Pour elle, ça devait d'abord être les garçons.
Voilà. C'est les garçons beaucoup plus. Et surtout, quand tu veux parler en tant que femme, tu n'as pas ton mot à dire.
Faut retourner dans la cuisine.
Voilà, c'est comme tu es là juste ce qu'on a dit de faire là. Tu dois être là. Tu n'as pas bon. Souvent, et au début, je pensais que c'est parce que j'étais petite en fait. Vu que je suis la Benjamin de ma famille, je pensais que c'est parce que j'étais petite. Mais à la longue, j'ai compris qu'en réalité, c'est parce que je suis femme. Parce que les garçons, même les jeunes garçons, eux, ils n'avaient pas. Souvent, quand on doit faire quelque chose, on prend les avis des gens et tout. Mais nous, on doit juste être là. On a dit de faire ça. Mais aussi, quand j'étais employée, je voyais, j'étais sur les réseaux sociaux, quand je vois la façon dont les femmes travaillent, elles sont juste là avec leur petite activité, elles sont contentes. Alors que, bon, moi, j'avais une autre vision de l'entrepreneuriat. C'est vrai que je n'avais pas encore entrepris. Mais quand je vois une entreprise, ce n'est pas ce que...
C'est pas vendre au marché.
Oui, pour moi, ce n'est pas ça, en fait. Une entreprise, c'est tout autre chose. C'est une activité qui génère des richesses, voilà, bien organisée, avec des employés, avec des ambitions. Parce que je travaille dans une entreprise qui est créée depuis 1828. Mais je me demandais comment ils ont fait pour résister jusqu'à ce moment. Mais quand je vois, au Burkina, je n'en connais pas. L'entreprise meurt avec,
avec son patron.
Avec son patron. Oui, mais là, d'abord, même, c'est toujours mieux, même quand c'est chez les hommes, quand même, quand la personne vit, l'entreprise vit, on voit quand même, en tout cas, il y a plusieurs exemples.
Mais là, mais moi, j'ai envie qu'on aille vite, en réalité, et qu'on plante le décor, parce que le temps tourne, malheureusement, vite. On a envie de dire, d'où viennent les principaux freins? Henriette? Ben, c'est Henriette, hein, Henriette Caboret a dit tout à l'heure, les hommes. Mais lorsqu'on écoute la plupart des femmes, on a le sentiment que ça vient de la maison et que c'est souvent, là je m'adresse à Patrice Sabadolo, que c'est souvent la maman qui dit, non vraiment l'école c'est pas pour toi, laisse tes frères aller à l'école. C'est vrai ou pas? Surtout dans cette région d'Afrique de l'Ouest.
Il faut dire quand même que le contexte socio-culturel joue beaucoup au niveau justement de l'entrepreneuriat des femmes. Parce que quand on a la préhension des normes sociales traditionnelles, les us et coutumes, etc., on peut dire quand même que ça joue beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat féminin et ça empêche réellement la femme de pouvoir faire ce qu'elle veut.
Mais là, ça
ne
répond pas à ma question parce qu'on va arriver à l'entrepreneuriat.
Oui.
On va arriver à l'entrepreneuriat, mais j'ai envie qu'on plante déjà
à la maison.
Et là, docteur Nebier, est-ce que ma question, vous la comprenez? C'est-à-dire, qui est le principal frein qu'on doit enlever pour qu'il y ait cette émancipation? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est le papa? Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est dans la rue?
C'est vraiment la maison.
C'est
vraiment la maison. Je crois que dès qu'on est petit, les mamans sont là. Non, toi, tu dois pas aller jouer. Tu dois laver les assiettes. Tu dois apprendre à préparer. Et les hommes, on leur dit non, vous n'avez rien à faire. Vous vous promenez. Donc, dès l'éducation de base, on nous inculque déjà qu'on est moins que les hommes et que nous, on doit faire d'autres tâches que les
tâches
hommes.
Les tâches
ménagères. Et puis, on ne doit pas être... Mais j'avoue, par exemple, moi, personnellement, mon père était diplomate. Rapidement, on était dans les petites écoles françaises, ça jouait, ça verrouillait exactement comme les Européens. Ça n'a pas changé dans la base. Mais sinon, honnêtement, de façon habituelle, au Burkina, dans l'éducation familiale, il y a déjà une pression sur la jeune fille qui montre déjà qu'elle doit être au fourneau quoi, par rapport aux hommes. Mais de plus en plus, tout le monde va à l'école quand même. On laisse quand même les gens...
Ça a changé quand même.
Oui,
ça a changé.
Ça commence à changer.
Voilà. Surtout que quand on regarde dans les salles de classe, quand on regarde les résultats, les filles sont plutôt brillantes.
En médecine, il y a 2/3 de filles.
En médecine, ici, il y a 2/3 de filles.
Partout, même à Abidjan, où j'ai fait mes études, dans les amphis, il y a 75 à 80% de filles.
Donc le mal qui ne veut pas être soigné par une fille, il est mal barré. Là,
voilà, tout à fait.
Il ne pourra pas aller à l'hôpital. Mais alors, aujourd'hui, dans vos activités respectives, qu'est-ce qui fait qu'on ait le sentiment que, malgré le fait que ça se libère, les femmes continuent de se brider? C'est-à-dire qu'elles font toujours les petits commerces, ça ne leur vient pas à l'idée de faire de l'industrie en riz caboré.
Je dirais que c'est toujours encore à cause des hommes.
Ah mon Dieu.
Tout simplement parce que pourquoi les femmes sont dans des petits commerces? Elles n'ont pas droit au crédit bancaire, elles n'ont pas droit à la terre, la femme n'a droit à rien, les hommes. Et tout à l'heure, j'entendais la dame parler je vous ai dit tout à l'heure que c'est depuis la naissance que la femme a été marginalisée. Ce sont les hommes, le papa qui influence la mère, puisque la mère est née marginalisée. Et ça continue ainsi. Maintenant, j'avoue qu'il y a eu un grand changement. Aujourd'hui, on voit les femmes entrepreneurs, on voit les femmes très dynamiques. La preuve est qu'on a une madame qui est professeure.
Lucie Nevier qui est professeure.
La première professeure. Oui, ouais. Voilà.
La première.
Voilà. Et vous voyez aussi madame Kabouré qui est là. Je ne suis pas la dernière non plus.
Non.
Dans mon secteur.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Celui qui dit ça, il risque gros.
Ah ben oui.
Alors, oui. Je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui fait donc, comment faire pour qu'il y ait ce saut qualitatif, puisqu'à l'école, elle travaille de plus en plus bien. Elle travaille déjà, mais maintenant, ça se voit de plus en plus.
Il faut tout dévisser, en fait. Il faut arriver à dévisser cela. Parce que Madame Kabouré l'a dit, ce sont les hommes. Ça, elle a dit clairement, ce sont les hommes. Mais il faut arriver à inculquer dans la tête des gens que tout le monde doit avoir les mêmes chances. Si on donne les mêmes chances à tout le monde, et là, ce n'est plus à la fille d'aller, par exemple, à la cuisine, et le garçon va rester pour étudier et puis apprendre ses leçons. Tout le monde a droit. Et d'ailleurs, quand la fille est à l'école, elle est plus intelligente et le plus souvent, elle réussit et les taux de réussite sont vraiment très, très élevés.
Mais on la marie vite aussi.
Oui, on la marie également. On la marie également vite. Et en plus, on a mis dans sa tête qu'elle est un peu inférieure à l'homme. Et lorsque elle veut aller plus loin, on trouve, par exemple, que elle veut être trop émancipée, elle veut bouleverser les codes, elle n'est pas soumise et elle ne peut pas tenir un foyer. Et donc, du coup, elle se recroqueville un peu derrière, alors que on voit des filles.
Il faut surtout donner la confiance. Il faut que les filles prennent conscience
voilà.
Et qu'on les accompagne dans cette confiance de pouvoir se réaliser. C'est vraiment ça. Il faut qu'on puisse un coup de pouce derrière, non seulement les libérer de tous ces carcans des us et coutumes, mais surtout même leur donner confiance, leur donner même un peu plus de d'accès au financement, comme disait Henriette, parce que le problème aussi pour
Mais pourtant, c'est celle qui rembourse le mieux les crédits, hein, lorsque l'on regarde, lorsqu'on consulte les banques.
Mais souvent, comme elle dit, il y a l'homme derrière qui récupère la caisse la nuit.
Oui, donc ça devient... elles n'ont pas
les garanties. Ils ne volent pas la caisse, hein, c'est elles qui donnent la caisse.
Oui, elles n'ont pas les garanties et elles sont obligées d'aller même vers les microfinances où elles peuvent avoir juste un petit crédit avec des taux qui vont de 12 à 20%, tout dépend. Et en plus, quand le crédit est obtenu, c'est le conjoint qui est derrière pour donner la direction de l'utilisation des fonds. Et donc, le remboursement devient difficile.
Et
le projet d'entrepreneuriat est abandonné.
Mais les hommes que vous décrivez, franchement...
Non, c'est la réalité, en fait. C'est pour ça que j'avais parlé tantôt de l'entourage, de l'environnement, des us et coutumes, de la famille, en gros.
Alors, vous êtes un peu plus jeune.
En tant que jeune, parce que c'est comme si, moi, pour mon expérience à travers la promotion du leadership féminin, parce que quand même, j'ai eu l'occasion de beaucoup côtoyer mes camarades et tout, parce que bon, à travers la sensibilisation parfois que je fais et tout, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est un canevas qui est déjà établi et qu'on doit évoluer. C'est comme une prison, je sais pas, et... Un corps qui est déjà établi et que, en tant que, quand on est né femme seulement en Afrique, bon, je vais prendre l'exemple du Burkina Faso. C'est comme si tu dois évoluer dans ce carcan-là, en fait. C'est comme si c'est déjà établi.
Maintenant, c'est dans la tête ou bien
c'est dans la tête,
surtout. C'est dans la tête.
C'est dans la tête, surtout. Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parents même ont des difficultés même pour maîtriser leurs filles aujourd'hui, même pour qu'elles restent à la maison et tout. Mais souvent, on a l'impression, aujourd'hui, quand on va dans les boîtes de nuit, on a plus de femmes que d'hommes. De plus en plus. Nous, en tant que jeunes, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a manque d'ambition même auprès de ces jeunes filles aujourd'hui. Elles sont là souvent, c'est les chichas, c'est les trucs. Apparemment, on a l'impression que c'est... La dernière fois, quand j'ai échangé avec un garçon, je dis, apparemment, vous, aujourd'hui, tous les hommes veulent une femme à l'image de Michelle Obama. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui est disponible sur le marché, c'est plus les jeunes filles à l'image de Lady Gaga. Et puis, Et puis, il a souri. Il m'a dit, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire. Que lui-même, il n'a jamais pensé à ça, mais c'est vrai.
Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que...
Sait pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en réalité, l'émancipation de la femme, j'ai l'impression que c'est mal interprété, surtout au niveau des jeunes. Parce que j'ai l'impression que nos mamans qui nous ont dévancés, j'ai l'impression que ça allait plus que maintenant. Parce que
vous avez le sentiment qu'elles se sont un peu perdues en chemin.
Oui, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, quand je me retrouve face
à ces jeunes-là aujourd'hui.
Allez, il faut qu'on se dise la vérité. Les femmes aussi aiment beaucoup la facilité. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, tu vois une femme, elle se regarde dans le miroir, elle veut vendre ce qui existe. Alors que la femme est une fleur, est fan. Alors que la femme...
Elle veut vendre son physique.
Voilà. La femme doit vendre son intelligence, son savoir-faire. Et ça, la différence. On dit les hommes, d'accord. Mais qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes faire? Qu'est-ce qu'on veut? Où on veut aller? On veut être responsable ou on veut être subalterne? C'est ça. Et puis, c'est la communication de vous, les journalistes. Il faut essayer de communiquer, de montrer aux gens qu'il y a des femmes qui sont valables. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, on dit les femmes sont là, dans les jardins. Mais c'est pas vrai. C'est fini, ça. On a fini avec ce temps-là. Ce temps est...
Oui, mais on a aussi le sentiment que vous voulez pas trop parler, hein. Lorsqu'on sollicite les femmes, elles ont plutôt tendance à dire,
Non.
Surtout celles qui réussissent, hein.
Non, aujourd'hui, les hommes sont jaloux. Je prends, par exemple, l'exemple du genre dans la politique. On demande à avoir des femmes dans la politique. Mais c'est vous, les hommes. Une fois que la femme émerge, la femme devient responsable, il y a même une scène de jalousie.
Où ça, à la maison?
Au foyer, oui, bien sûr, on voit ça. Les femmes, pourquoi les femmes ne se présentent pas dans les députations et consorts?
Oui, mais j'en discutais avec un politique hier qui disait, on est en train de les chercher, si elles peuvent venir.
Ben oui, mon œil.
Tout dépend du positionnement. Tout dépend du positionnement. Parce qu'il y a des moments, quand la femme, elle est mal positionnée, elle ne peut pas passer.
On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, dans la seconde partie du débat africain, puisque nous serons ensemble pour donner au moins espoir aux plus jeunes qu'elles quittent un peu les jardins. On se retrouve juste après le journal.
Le débat africain. Alain Foucault.
Et si on donnait la parole aux femmes africaines afin qu'elles parlent d'elles-mêmes, pas celles que l'on se plaît à décrire dans les médias internationaux, celles plus modernes et de plus en plus nombreuses qui ne sont pas suffisamment misérabilistes pour entretenir le cliché jusque-là diffusé. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec des femmes leaders sur ce plateau. D'abord, Madame Henriette Kabore, la PDG de BTM, Bâtiment Travaux Publics Maintenance, une entreprise spécialisée dans le BTP et la maintenance qui a construit quelques grands édifices dans la ville de Ouagadougou et de l'intérieur du pays. Henriette Kabore était jusqu'à une date récente la présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au Burkina Faso. Notre seconde invitée est le professeur Lucie Nébier, maître de conférences agrégée en cardiologie, cofondatrice et médecin associée à la Polyclinique internationale de Ouagadougou, première femme cardiologue du Burkina Faso. Notre troisième invitée est Madame Patricia Badolo, la directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en charge d'appui et support. Elle était avant ça la directrice générale de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Quatrième invitée de notre plateau, la plus jeune, Aminata Sinka, la présidente des Jeunes Femmes Leaders, un club dont la vocation est le développement de l'entrepreneuriat féminin. Alors nous avons terminé la première partie en évoquant aussi la responsabilité même des femmes. Henriette Kabore disait, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Et j'ai vu tout de suite professeur Nébier dire, j'ai quelque chose à dire, rapidement.
Oui, tout à fait. Mmh. En fait, je pense qu'il faut que les femmes apprennent vraiment à changer ce monde-là. On a les aptitudes, on a même les aptitudes intellectuelles. Mais il faut juste qu'on mette la main à la pâte, que les gens nous accompagnent avec les financements, parce que je pense qu'en Afrique, toujours, il y a une difficulté pour la femme d'avoir accès au financement.
Mais il y a une difficulté globale aussi. Hein,
mais surtout dire, même, chez la femme.
Voilà. Je n'en doute pas.
Mais... Et en fait, je pense qu'elles peuvent réaliser tout ce qu'elles peuvent. Il faut juste qu'elles croient en elles-mêmes et qu'elles puissent se battre.
Donc pour qu'elles croient en elles-mêmes, il faut qu'elles voient des modèles. Or, on a le sentiment que lorsque la femme a réussi, elle ne veut pas qu'on parle d'elle du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas vrai, Madame Badolo?
Non. Quand même, il y a des femmes qui encouragent les autres. Et je peux dire que il y a des institutions, des structures d'appui aussi, qui font tout pour quand même célébrer les femmes, de sorte à amener celles qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat à le faire.
Alors, vous qui êtes à la Chambre de commerce, est-ce que vous voyez naître une nouvelle race, une nouvelle génération de femmes chef d'entreprise aujourd'hui?
Il y en a de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus. Autour de cette table, nous avons Madame Kabore. Lucie, elle est là. Mmh. Et elle, la plus jeune, elle a son entreprise. Mmh. Oui, nous avons Madame Velegda, nous avons Madame Célira, nous avons, bon, pour ne pas citer des noms, mais nous avons des grandes dames qui s'affichent.
Dans quel secteur d'activité essentiellement?
Nous avons le BTP, nous avons l'agroalimentaire, nous avons la santé, et il y a plusieurs pharmaciennes qui sont là, qui entreprennent, et donc nous avons quand même plusieurs qui évoluent dans ces secteurs-là, les services, l'artisanat, et donc
on a le sentiment que c'est une génération qui est au-dessus de 45 ans, qui semble vraiment émerger, et que un peu plus bas, c'est un peu plus poussif, non?
Oui, mais en fait, quand on regarde même au niveau des études que nous avons menées au niveau de la Chambre de commerce, à un certain âge, il n'y a pas de création d'emploi. Jusqu'à 25, 30 ans, il n'y a pas de création d'emploi parce que il y a ceux qui sont au niveau des études, qui suivent leurs études, et c'est après cela que nous enregistrons les cas de création d'emploi. Si bien que actuellement, nous avons 20% de femmes actuellement au niveau du bassin des entreprises qui ont créé leur entreprise formelle 20%. Et 80% des hommes. Donc vous voyez que c'est quand même un gros écart parmi ces créations d'emplois là. Et ça, c'est depuis plus d'une dizaine d'années que nous avons cet écart qui est presque maintenu.
Il est constant, il n'y a pas
18, 17, 19, 20, même depuis 20 ans, si bien que il y a une évolution. On sent que les femmes créent parce que en 2011, on avait environ 7000 entreprises créées par les femmes. En 2020, en fin 2020, on a enregistré 25 600 femmes qui ont créé des entreprises. Donc, 18 000 nouvelles entreprises qui ont été créées.
C'est dans quel secteur essentiellement?
Le commerce, nous avons les services, nous avons l'artisanat et l'industrie juste un tout peu.
Mais il y a quand même des industriels alors?
Oui, il y a des industries, mais juste un tout peu. Mais c'est beaucoup plus le commerce, les services et puis l'artisanat. C'est à ce niveau qu'on a beaucoup plus de création d'entreprises.
Aminata Sinka, vous qui êtes avec les jeunes, on sait que bon, il y a un autre univers qui est celui des réseaux sociaux. Est-ce que vous les sentez prêtes à créer leur entreprise et dans quel secteur d'activité essentiellement?
Ce qu'on voit plus, c'est les boutiques. Les boutiques de vente de prêt-à-porter, c'est plus le petit commerce sur les réseaux sociaux qui est plus répandu aujourd'hui auprès des jeunes femmes. Mais nous, notre travail aujourd'hui, c'est de les amener vraiment à avoir une autre vision de l'entrepreneuriat en fait. C'est de les amener à aller vers des entreprises où même elles peuvent même transformer des produits, surtout dans le domaine de l'industrie, aller vers cela. Voilà, donc ça fait que nous parlons beaucoup plus du leadership entrepreneurial des jeunes femmes. Nous avons eu à organiser des conférences de sensibilisation en partenariat même avec la Chambre de commerce où nous invitons les jeunes femmes, voilà, de plus de 18 ans jusqu'à montant vers 40-45 ans. Voilà, ce sont elles notre public cible parce qu'on a vu que en réalité, le problème se pose beaucoup plus là-bas. Moi, je ne sais pas vraiment.
Alors,
le
Henri Caboret faisait la réflexion tout à l'heure en disant beaucoup de jeunes filles aujourd'hui cherchent plutôt à utiliser leur plastique, à se regarder dans la caméra de leur téléphone portable. La facilité. Vous ressentez ça?
Oui, nous ressentons vraiment ça.
Et comment ça se passe? C'est le phénomène télé? C'est le phénomène Lady Gaga dont on parlait et les Kardashians? Ou bien c'est quoi exactement?
J'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Et parce que les réseaux sociaux aussi donnent accès actuellement quand même à un certain nombre d'informations de ce qui se passe à travers le monde. Donc, comme on s'est dit que, bon, nous, en Afrique, on était en retard, les autres étaient en avance. Donc, on a l'impression que, voilà,
le mimétisme.
Il faut faire vite, voilà, pour pouvoir imiter et tout. C'est pourquoi souvent, moi-même, je me dis, est-ce que ça ne serait pas quand même bien qu'on essaye de voir, mettre en place un système de faire une éducation à l'africaine, mais d'amener quand même les femmes à avoir confiance en elles et à vouloir entreprendre et aussi avoir de grandes ambitions. Ce n'est pas seulement être une femme belle, sexy ou bien voilà qui voyage un peu
qui est
partout,
dans le reality show,
voilà,
les influenceuses.
Ou une femme, comme on le dit, où ses yeux sont bien ouverts.
Ses yeux sont bien ouverts.
Voilà, ça c'est notre jargon.
Mais alors, vous êtes voilà, des mamans donc, ici. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez avec vos filles? Parce qu'elles ont besoin, elles entrent dans une autre ère qui n'est pas la vôtre, que vous n'avez pas vécu, mais vous avez une expérience. Est-ce que vous en parlez avec elles et qu'est-ce qu'elles disent, Henriette?
Alain, d'abord, moi, je suis une fille et j'ai quitté mes parents à peine 14 ans. J'ai fugué.
Ça ne nous étonne pas.
Le mariage forcé, j'ai fugué. J'ai 4 filles. Ma première fille est pharmacienne. La deuxième travaille à Goldman Sachs, financière.
Oui.
La troisième, juriste. La quatrième est chef d'entreprise. Donc, aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, je fais comprendre à ses enfants que ce n'est pas la beauté, c'est le cerveau qui travaille.
Surtout qu'elles sont belles, hein, vos filles.
Eh bien, oui. Ouais. Et la beauté est éphémère.
Elles ont pourtant fait pharmacie. Donc,
elles ont vu comment j'ai souffert. Elles ont vu comment j'ai trimé pour être là où je suis aujourd'hui. Donc, je t'avoue que ce sont des enfants qui travaillent, qui ne tendent pas la main. Une femme ne doit pas tendre la main. Elle doit, au contraire, donner aux hommes.
Mais c'est le message qu'il faut faire passer, parce que dans le même temps, c'est un peu facile de ne regarder que les hommes. Ils ont leur part de responsabilité.
Ben oui, et en plus, j'ai un garçon, les 4 filles et un garçon qui va sortir ingénieur bientôt, mais il est au milieu de ces femmes, il est complexé, parce que les femmes se battent, mes 4 filles se battent. Et bon, c'est ce que je donne comme conseil à toutes les autres filles. La fille peut bien faire, il faut juste vouloir pour pouvoir.
Et y croire.
Voilà, y croire.
Y croire. Voilà. Professeur Nebier.
Moi, je n'ai pas de fille, mais des.
Il faut lui demander le secret de vous faire.
J'essaie d'expliquer aux garçons aussi que, de toute façon, la fille, elle est leur égale. Hein. Il faut qu'ils se mettent à la cuisine, il faut qu'ils apprennent et puis il faut qu'ils les accompagnent. Il ne faut pas que ce que nous, on a subi, on essaie aussi de leur dire non, allez-y, vous couchez. Non, je leur explique tout le temps qu'il faut mettre la main à la pâte, à la cuisine, partout.
Ça passe comme message?
Ça passe, oui. Je pense qu'avec une maman comme moi, ils n'ont pas trop le choix.
Mais quand la grand-mère arrive, bon, la grand-mère, dans votre cas, elle était plutôt...
Ah oui, mais elle est
parce que souvent, il y a l'influence des grand-mères qui arrivent du village qui disent « Mais comment ton garçon peut être à la cuisine ?» Elles font quoi, les filles? C'est vrai ou pas, Madame Badou?
Non, ça, c'est juste. Ah. Ça, c'est juste. Et surtout, quand c'est l'époux qui passe à la cuisine... Et
là, il y a drame.
Ah, là, il y a drame.
Comment son fils peut faire à manger?
Voilà.
Quelle est cette femme qu'on est allée chercher en ville?
Et pourtant, je pense quand même que nous sommes complémentaires et chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte.
Et surtout à l'extérieur. Hein, tout le monde s'y met, mais dès qu'on rentre en Afrique...
Tout à fait.
Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on est en Europe, c'est les maris modernes, très, très Mais dès qu'ils arrivent, non, la belle-mère n'a pas besoin de voir son fils à la cuisine,
voilà.
C'est ça.
Voilà. Et donc, pour les filles, pour revenir aux filles, moi, je pense quand même qu'elles se battent quand elles ont derrière quelqu'un qui leur dit « Écoutez, ne tendez pas la main, n'attendez rien de qui que ce soit, il faut aller ». Et il faut oser. Moi, je pense que là, ça donne
mieux. Que le message
mais,
passe mieux.
Voilà. Mais quand mieux. On dit oui, tu es toute belle, ma chérie, tu es mignonne. Bon, tout de suite, également, ça monte la tête. Et puis, ben voilà, elle a envie de jouer à la Miss. Et là, ça ne marche pas du tout. Il y a un moment pour tout. On peut jouer à la Miss pendant les vacances, s'amuser, mais... Quand c'est la rentrée scolaire, il faut
travailler. L'un des autres drames dont on parle souvent, c'est la promotion canapé. Est-ce que les femmes sont toujours confrontées à cette réalité où il faut coucher absolument pour réussir? Est-ce que c'est un fantasme ou bien ça a commencé à disparaître? Là, je veux commencer par la plus jeune, Aminata Sinka. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme passe par la case lit pour s'en sortir?
Pas vraiment.
Pas vraiment, hein?
Non. Par exemple, quand j'ai commencé à entreprendre, et d'abord, j'étais employée. Depuis quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai toujours rêvé à entreprendre. Donc,
je m'étais. Mais est-ce que vous n'avez pas de frein des hommes qui, en chemin, vous disent, bon, tu sais ce qui te reste à faire?
Oui, j'épargnais de l'argent, mais à l'insu de tout le monde, parce que bon, je savais quand même que de ma position, quand même, si les gens avaient mes ambitions, je n'allais pas pouvoir quand même les réaliser. Voilà, je suis allée un peu comme ça. Quand j'ai commencé aussi, même au début, même là, on a tout fait vraiment pour que, pour démanteler. Mais, par exemple, il y a le fonds Burkina Startup qui venait de lancer où il fallait les entreprises innovantes. Bon, là-bas, on n'a pas besoin de dire que tu es homme ou femme parce que comme j'avais mon projet innovant et je croyais vraiment à mon projet et je me disais qu'il fallait vraiment me battre pour que ce projet puisse se réaliser. J'ai passé le concours de Burkina Startup et ça m'a permis de développer mon entreprise. Et au-delà de ça, j'ai dit, mais ce que j'ai commencé à faire là, il fallait vraiment que je développe encore pour que ça puisse être un produit qui puisse se vendre partout dans le monde.
Aujourd'hui, mais vous n'avez pas rencontré la difficulté des hommes qui vous disent je vous attends à l'hôtel, voilà la clé de
oui,
la chambre.
Oui, mais non, mais j'ai l'impression que souvent c'est la personnalité de la personne même qui ouvre ce genre de porte.
Là, je vais poser la question à tout le monde ici. Oui, Henriette, dans votre parcours, qui est un grand parcours avec des gros contrats, qui se discutent dans des bureaux feutrés, il n'y a pas quelques-uns qui vous disent vous êtes très belle, madame?
Je défie quiconque. Jamais de la vie. En fait, on diabolise aussi. Il faut reconnaître qu'on diabolise les hommes. Ce sont les femmes elles-mêmes qui cherchent ça. Moi, je vois mal un homme me dire position canapé. Quelle position canapé? Où ça?
Le contraire sur le canapé.
Ah non, jamais. Ça dépend de comment tu te comportes en rentrant chez le monsieur, le patron, quand tu commences à tourner les yeux comme ça. Mais attends. Faut pas
attendre autre chose.
Non. Jamais. Moi, je dis non. Ça, je peux pas en vouloir aux hommes. Je dis c'est la femme qui monte ce chemin aux hommes. Moi, je vois pas pourquoi je vais me faire position canapé alors que j'ai tous mes moyens. J'ai ma tête. J'ai mes chantiers. J'ai fait un appel d'offres, j'ai reprenu un appel d'offres. Quelle position canapé?
Professeur?
Non, vraiment pas. Je crois que bon, déjà, peut-être que mon statut intellectuel, ça a dû les freiner un peu. Mais surtout.
C'est excitant pour certains.
Non.
Je vais me mettre la cardiologue dans mon pieu.
Non. Je crois que, comme dit la grande sœur Henriette, il faut prêter le flanc. Il faut être un peu aguicheuse, hein. Sinon, je crois que si on reste intellectuel, il n'y a pas trop de soucis.
Madame Badolo?
Non. Vraiment,
je dis pas juste votre cas, je dis est-ce que vous avez vu ça autour de vous? Parce que j'imagine que même si ça vous était arrivé, quand même c'est un peu gênant de dire, vous savez, je suis allé.
Oui, mais tout dépend aussi du comportement de la personne. Quand on prête le flanc, naturellement, quelqu'un viendra vers toi pour dire, voilà, je suis intéressé par telle chose, peut-être pour conclure telle chose, je ne sais pas. Mais bon.
On boit un verre à l'hôtel et puis je vous signe le contrat.
Oui, bon, comme on n'a pas de contrat à signer, il faut carburer, il faut produire, les rapports, faire les comptes rendus et puis aller juste mener les activités qu'il faut mener pour pouvoir...
accompagner le secteur privé.
Oui, il ne faut pas, donc, pas diaboliser les hommes aussi. Oui. Attends, non, il y a les hommes responsables.
Et puis c'est une lutte, hein, voir une femme qui émerge, il faut tout de suite savoir que quelque part, il y a un homme qui guette aussi le poste, qui trouve des petites choses à dire pour décourager.
L'homme ne veut pas qu'elle se développe, ça dit tout.
Exactement.
Dès qu'elle commence à dépasser son homme, c'est fini.
Ah oui, mais moi j'ai l'impression.
Voilà, et donc.
En fait, ce que je vois aussi à travers cela, j'ai l'impression aussi que c'est, voilà, que c'est comme c'est une image qui a été créée aussi pour freiner les femmes.
Tout à
parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a l'impression qu'une femme qui émerge forcément est passée par ces moyens-là. Et tout de suite, ça bloque les autres. Par exemple, si toi tu es là, moi je veux émerger, mais moi je ne suis pas. Si on dit que c'est comme si c'est l'obligation, c'est comme si c'est quelque chose, c'est un, quelque chose qui c'est la norme. Oui. Alors que ce n'est pas ceci. Moi je trouve que c'est un stéréotype qui a été créé seulement pour freiner l'ascension des femmes.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'ai besoin que les jeunes filles qui vous écoutent, puisque le but aussi c'est que ces personnes-là vous écoutent et voient votre expérience, peut-être copient sur vous parce qu'elles ont besoin de modèles, ces jeunes filles-là. Quels seraient les principaux conseils que vous donneriez aujourd'hui pour entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une jeune fille qui va à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'elle doit se dire, je veux être employée? Et dans quel domaine elle doit aller? Dans quel domaine elle doit créer son entreprise? Je vais commencer par Madame Badolo qui est à la Chambre de commerce aujourd'hui. Okay. Si vous deviez donner des conseils.
Les conseils qu'on donne aux jeunes filles, c'est d'abord ne pas se dire qu'à la fin de mes études, moi, on va me recruter au niveau de la fonction publique. Déjà, il faut savoir ce que tu as à faire. Qu'est-ce que moi j'aimerais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là déjà, elle évolue avec une idée d'entreprise en tête. Et là déjà, je pense que elle commence à avoir ses rudiments, regarder autour d'elle. Par exemple, celles qui ont encore l'avantage d'aller à l'étranger, étudier, essayer de voir...
Des domaines qui sont porteurs.
Voilà, des domaines qui sont porteurs. S'approcher aussi des structures d'appui au secteur privé, venir pour essayer de suivre, avoir des coachings, mais ne pas attendre carrément à la fin et dire, voilà, oui, moi, on doit me recruter à la BCAO, on doit me prendre dans telle banque. Pas forcément. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire.
Et puis, on n'est pas forcément plus heureux quand on est à la
BCAO. Et aussi faire des stages au fur et à mesure, parce que bon, pendant les vacances, ne pas être là toujours oisif à ne rien faire. Il faut toujours apprendre et essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire, comment je peux mettre à profit, moi, mon temps. Donc, voilà un peu ce que nous
avons fait. Henriette,
oui.
Est-ce que vous conseillez à des jeunes filles de venir dans le secteur qui est le vôtre? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'elles peuvent s'en sortir, celui du BTP, qui est assez porteur?
Oui, Alain, je pense que le secteur BTP est très porteur. Mm-hmm. Je prends mon cas. Moi, en 73, j'ai quitté mon pays. Mm-hmm. Je suis allé chercher. Mm-hmm. Je suis pas intellectuel. Après le bac, j'ai pas pu continuer mes études. Mm-hmm. Je suis d'une famille très bourgeoise en son temps.
Ah, ça?
Mais j'ai pas pu continuer mes études parce que j'avais fugué. Mon père était fâché. Mais Alain, je te jure qu'il faut juste vouloir être sûr de ce que l'on veut faire. Moi, mon problème en Côte d'Ivoire, c'était venir construire comme en Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et j'ai réussi.
Docteur, dans votre domaine, il y a...
Oui,
la médecine.
Je pense que la médecine, il faut peut-être juste ajouter un peu de gestion, parce que ça, parfois, ça pêche et ça crée des problèmes. Mais sinon, il y a déjà une autre cardiologue installée, ça se passe très bien. Je pense qu'il y a la place. L'année dernière, il y avait près de 2000 médecins qui sortaient et qui, bon, il fallait chercher comment trouver des solutions pour eux. Je pense qu'il y a de la place. La médecine au Burkina, il y a encore beaucoup de place, il y a beaucoup de spécialités à faire, il y a beaucoup de cliniques à ouvrir. Et je pense que s'associer
de place pour les femmes qui sont majoritaires dans les écoles aujourd'hui.
Voilà, merci.
Et puis pour les jeunes filles qui sont très très réseaux sociaux, en un mot, Aminata Sinka, qu'est-ce que vous leur conseillez dans ce secteur d'activité là pour en investir?
Oui, mais je les conseille de profiter des réseaux sociaux même pour se faire de l'argent parce que c'est possible. Voilà, elles ont la possibilité même de vendre des produits, de créer des produits et de les vendre à travers les réseaux sociaux.
Tout à fait, ça facilite les choses aujourd'hui.
Et puis voilà, ça facilite même de se faire connaître même au-delà même des frontières burkinabées.
À l'international. Voilà, malheureusement, donc, nous arrivons au terme de cette émission. Merci en tout cas à vous, mesdames, d'être venues. Et c'était un homme qui animait aujourd'hui. Merci à vous d'être venues et puis bon courage dans votre lutte.
Merci.
On espère que vous prendrez bientôt le pouvoir parce que nous, les hommes, on a plus ou moins.
Nous voulons bien.
Bon courage à vous.
Le débat africain, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Religion du monde.